Europe 1, il est midi.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Bonjour à tous, bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. À la une, ce nouveau chèque pour les automobilistes, mais cette fois sous condition de ressources, 100 euros pour ceux qui prennent leur voiture pour aller travailler. Le détail dès le début d'Europe Midi. La consommation d'électricité baisse de semaine en semaine, on va y revenir. Pour passer l'hiver, on importe de l'électricité de l'étranger. À quel prix, dans quelle proportion? Baptiste Morin avec nous. On sera également à partir de midi 20 avec le spécialiste de l'énergie Christian Sempère et avec Dominique Enract qui est président de la Confédération de la boulangerie-pâtisserie française. Les boulangers sont très inquiets à cause du prix de l'électricité. On sera également avec vous au 39-21 évidemment. Le niveau des élèves en orthographe continue de baisser. Écoutez bien, en CM2, les élèves font deux fois plus de fautes que leurs parents au même âge, nous dira Louise Salé dans un instant. À propos d'élèves, des petits de classe primaire hein, sont escortés par la police sur le chemin de l'école à Paris pour les protéger des agressions commises par les toxicomanes. Le maire d'arrondissement sera avec nous à 12h45. La tendance météo, Anissa Haddadi, avec une certaine constance dans le ciel. Hein.
Oui, c'est ça, c'est une façon élégante de dire que finalement les jours se suivent et se ressemblent et que nous avons quasiment toujours la même météo, c'est-à-dire ce temps sec avec cette atmosphère humide quand même, avec tous ces brouillards, mais cette grisaille qui reste tenace. Alors aujourd'hui, pas seulement sur la moitié nord, hein, la grisaille commence à arriver dans le sud-ouest du pays.
Anissa Haddadi, merci Anissa et à tout à l'heure pour la météo complète.
Europe 1.
Plus de ristourne gouvernementale sur le litre de carburant à partir du 1er janvier prochain, mais une aide pour les travailleurs modestes. C'est l'annonce qui a été faite ce matin par la Première ministre Elisabeth Borne. Les bénéficiaires, environ 10 millions de personnes en France, pourront toucher 100 euros. Barthélémy Philippe avec nous. Bonjour Barthélémy.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Quelles sont les conditions pour obtenir cette indemnité ?
Eh bien, l'aide s'adresse uniquement aux employés qui ont besoin de leur voiture pour aller au travail. Si vous êtes concerné et que votre salaire est inférieur à 1315 euros net mensuel, alors vous êtes éligible. Pour un couple avec un enfant, le plafond de revenus cumulé est fixé à 3285 euros net mensuel. Comment réclamer l'aide? Il suffit de vous rendre sur le site impots.gouv.fr et de renseigner votre numéro fiscal ainsi que la plaque d'immatriculation de votre voiture. L'indemnité sera ensuite automatiquement versée sur votre compte bancaire dans le courant du mois de janvier. Selon Matignon, ce nouveau chèque carburant représente une ristourne de 10 centimes par litre pour un travailleur qui roule environ 12 000 km par an. C'est le kilométrage annuel moyen des Français. Hein. Pour financer cette mesure, le gouvernement prévoit une enveloppe de l'ordre d'un milliard d'euros. Et l'annonce d'Elisabeth Borne intervient alors que les prix moyens à la pompe baissent depuis la mi-octobre. Actuellement, il faut compter 1,80 euros pour le litre de gazole et 1,70 euros pour le litre de sans-plomb 95.
Barthélémy Philippe, merci beaucoup Barthélémy. La peur des coupures d'électricité continue d'inciter les Français à réduire leur consommation d'énergie. C'est probablement votre cas. Selon des chiffres publiés par RTE la semaine dernière, la consommation d'électricité dans le pays était inférieure de 8,3% à la moyenne des années précédentes. L'industrie est largement responsable de cette baisse, mais les particuliers que nous sommes font également des efforts. Guillaume Dominguez, bonjour Guillaume.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
C'est ce que vous ont confirmé certains Parisiens que vous avez interrogés. Oui, ils font des efforts.
Hein. Oui, mais c'est surtout la crainte d'une explosion des factures d'énergie qui inquiète les Français. Par conséquent, beaucoup ont donc adopté les fameux éco-gestes. Écoutez.
J'éteins plus les lumières dans les pièces où je ne suis pas. J'éteins plus les veilleuses.
On a allumé le chauffage plus tard dans l'année que les autres années. On ne laisse pas les lumières allumées. On débranche les chargeurs quand il n'y a rien au bout. On éteint les multiprises quand on ne les utilise pas, l'imprimante et tout, quand on n'utilise pas, on éteint.
Moi, personnellement, j'éteins plus mes lumières. Je fais plus attention. Je quitte une pièce, j'éteins, voilà.
Et certains vont même plus loin, comme Yanis qui m'a confié avoir réellement pris conscience du coût de l'énergie au point d'en changer ses habitudes.
Tout bêtement, les consoles. Des fois, je vais 2-3 semaines sans jouer à la console, elle est toujours branchée. Donc, je les ai toutes débranchées jusqu'à prochaine utilisation. Des fois, je laisse mon ordinateur charger toute la journée, je réalise que ça sert à rien, donc je débranche. Et des petits trucs à la maison, par exemple, machine, Nescafé, des petits trucs comme ça, où à moins que j'ai des invités, je ne l'utilise pas vraiment, donc... pourquoi je les garde branchés, quoi.
Voilà des bons gestes qui permettent déjà à certains Français comme Agnès de réaliser des économies.
Entre novembre 2021 et novembre 2022, nous avons fait une économie de 386 euros en faisant très attention au chauffage, l'électricité, l'utilisation des appareils aussi électroménagers. On a la preuve qu'en faisant un effort, on réduit vraiment notre consommation.
Et pour toutes les personnes que j'ai rencontrées ce matin, le véritable test de ces éco-gestes commence maintenant avec cette première vague de froid qui touche la France depuis maintenant quelques jours.
Merci beaucoup, Guillaume. Vous faites attention, vous, Guillaume, ou pas ?
Oui, à la maison, on fait un peu attention quand même.
Voilà, mais tout le monde fait attention. Hein. C'est un très, très bon reportage. Merci beaucoup, Guillaume. C'est la réalité. On baisse un peu plus la lumière, on baisse le niveau de luminosité, on éteint. Ce sont les consignes, mais ça s'applique. Voilà, et on va continuer à en parler hein, dans un instant. Bien sûr, avec notre spécialiste des questions d'énergie, Christian Sempère, qui sera avec nous à midi 20. Si cette baisse de la consommation d'énergie dans tous les secteurs est plutôt une bonne nouvelle en ces temps de crise énergétique, dans le cas de l'industrie, consommer moins, c'est aussi un paramètre inquiétant. Pourquoi ? Eh bien parce que ce recul s'explique en bonne partie par le ralentissement, voire, Baptiste Morin, bonjour.
Bonjour.
Voire par l'arrêt complet de certaines activités. Hein.
Oui, les coûts de l'énergie sont tels que produire coûte parfois trop cher. C'est le cas dans la métallurgie, Aluminium Dunkerque a réduit sa production de 22%. C'est le cas dans le verre, les cristalleries d'art qui ont mis 1600 salariés au chômage partiel sur un total de 4600. C'est le cas dans l'agroalimentaire, le groupe Cofigeo, qui possède notamment William Sorin, a annoncé mettre à l'arrêt 4 de ses 8 usines. Et c'est aussi le cas dans la chimie, notamment les engrais. Yara, le leader mondial de l'engrais azoté, a dû réduire la voilure. Écoutez son président en France, Nicolas Broutin.
Le gaz naturel représente jusqu'à 90% de nos coûts de production et la variation très forte du prix du gaz nous a amené, à la fin du mois d'août, à réduire de 65% notre capacité de production européenne. Et aujourd'hui, nous adaptons la capacité de production de façon continue.
Notez que les grands sites industriels ont baissé leur consommation d'électricité de plus de 10%.
Alors Baptiste, la consommation baisse, on l'entend, mais on flirte déjà avec la limite.
Oui, nous avons connu nos premiers pics de consommation significatifs. C'était lundi et hier, à chaque fois à 19h, quelques 74 gigawatts d'électricité consommée. Ça devrait être battu hein, ce soir à 19h à nouveau. La particularité de ce moment qu'on traverse, c'est qu'on importe massivement cette électricité qu'on consomme, quasiment trois fois plus qu'il y a un an à la même époque. Ça témoigne évidemment de notre dépendance vis-à-vis de nos voisins, mais certains observateurs notent qu'on importe de façon surtout à préserver, par exemple, nos capacités hydroélectriques. En clair, on conserve pour l'instant une partie de l'eau qui est dans nos barrages, probablement en prévision de la première alerte EcoWatt Orange qui devrait intervenir lundi prochain.
Baptiste Morin, merci beaucoup Baptiste, service économie d'Europe 1 bien sûr. Est-ce que c'est la fin de la politique du zéro Covid en Chine ? En tout cas, les autorités annoncent aujourd'hui un allègement des règles sanitaires très strictes imposées dans le pays depuis le début de la pandémie. Les personnes testées positives au Covid qui ne présentent pas de cas graves peuvent désormais s'isoler à domicile et ne seront plus emmenées dans des centres de quarantaine. Par ailleurs, il n'est plus nécessaire de présenter un QR code pour accéder à la majorité des bâtiments publics en Chine. Est-ce que vous connaissez les streptocoques ? Ah, c'est une catégorie de bactéries, souvent cause d'angine, mais aussi de scarlatine. Et cette année, les infections au streptocoque A sont particulièrement fréquentes chez les enfants. Yasmina Katou avec nous. Bonjour Yasmina.
Bonjour à tous.
La Direction Générale de la Santé lance même une alerte. Hein.
Oui, une alerte destinée aux professionnels de santé, puisque ces dernières semaines, 8 cas d'infection à streptocoque A ont été identifiés. 2 enfants et un adulte sont décédés. C'est une hausse inhabituelle, disent les autorités, pour cette maladie extrêmement rare. Les infections à streptocoque provoquent, dans la majorité des cas, vous l'avez dit, des angines bactériennes bénignes soignées avec des antibiotiques. Mais dans de rares cas, la bactérie se retrouve dans le sang, ce qui entraîne des infections graves. Les malades ont été signalés en Occitanie, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Nouvelle-Aquitaine. Mais la situation ne se résume probablement pas à ces seules personnes. Alors pour évaluer la hausse du nombre de malades, les autorités recommandent d'effectuer des tests salivaires aux enfants, des tests rapides qui présentent des symptômes d'une angine pour déterminer si elle est bactérienne et donc nécessite la prise d'antibiotiques.
Yasmina Katou, merci Yasmina, spécialiste des questions de santé à la rédaction d'Europe 1. Il est midi 9, restez bien avec nous sur Europe. Dans un instant, on sera avec Louise Salé qui va nous parler de cette étude. On s'aperçoit que le niveau baisse en orthographe. On en a la preuve. Restez bien avec nous sur Europe. A tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Il est midi 11, merci d'être avec nous. Des enfants escortés par la police en plein Paris. Pourquoi ? Pour aller à l'école, tout simplement. Il s'agit de les protéger des toxicomanes, de les protéger de ces personnes qui prennent du crack, une drogue extrêmement dangereuse. Avant d'être en direct avec le maire du 18e arrondissement de la capitale, ce sera aux alentours de 12h45. C'est là où ça se passe, dans le 18e arrondissement de Paris, c'est dans le nord de Paris. Je voulais qu'on entende ces réactions de parents d'élèves enregistrées par Clotilde Dumay. Écoutez.
Ça rassure pour déposer, peut-être, ou pour récupérer. Mais il y a 24 heures dans la journée. Entre la nuit, comme quoi il rôde dans tout le quartier pour casser les voitures, pour essayer de voler quoi que ce soit, pour avoir une dose, pour se piquer dans la rue. Et le soir, à partir de 22h jusqu'à 5h du matin, sur le boulevard Ney, il y a de la prostitution. Devant tout le monde, il n'y a personne qui fait rien.
On voit des gens déjà sans vêtements, on voit des gens pieds nus, on voit des gens qui consomment de la drogue, on voit des actes sexuels. Donc après, quand on emmène des enfants, il faut pouvoir leur expliquer ça. Il faut pouvoir leur dire, il faut pouvoir qu'ils comprennent. Et je pense qu'on est en train d'enlever l'innocence de nos enfants, en fait, tout simplement.
Même les institutrices, pour venir travailler, se font agresser. Elles ont peur, c'est grave. Parce qu'elles viennent la peur au ventre, c'est pas bon pour les enfants, c'est bon pour personne. Oui.
C'est bon pour personne, effectivement, cette dame a raison. Qui peut accepter cette situation qui dure depuis plusieurs semaines maintenant? On en parle donc dans une demi-heure maintenant, aux alentours d'une heure moins le quart. Vous avez forcément entendu ces phrases. Les Français sont nuls en maths, en anglais, en lecture, mais aussi les Français sont nuls en orthographe. Ce n'est pas forcément nouveau. Ce qui l'est en revanche, c'est que ça ne s'arrange pas. Le ministère de l'Éducation nationale vient de publier une étude. Louise Salé avec nous. Bonjour Louise.
Bonjour.
Les chiffres ne sont toujours pas bons, hein.
Oui, depuis 1987, c'est la même dictée qui est évaluée dans différentes classes de CM2. L'opération a déjà été réalisée à 4 reprises en près de 30 ans. Et à chaque fois, le nombre d'erreurs augmente. En 2021, il est de 19,4 sur une soixantaine de mots, contre 10,7 en 1987. La quantité de fautes a donc doublé. Néanmoins, il y a un peu de positif. Le niveau baisse moins vite en ces dernières années que dans les années 2010. Et quelles sont les fautes alors, Romain, les plus fréquentes? Eh bien, sans surprise, ce sont ces règles d'accord entre le sujet, le verbe, le groupe nominal et surtout, attention, le participe passé. Celui-là mérite qu'on s'y attarde. Hein. Par exemple, Romain, pour la phrase.
Oula.
Que de précautions a-t-il fallu? Comment accordez-vous fallu?
Que de précautions, il a fallu des précautions. Donc, le COD est avant. Je mettrai US.
Alors non, parce que falloir est un verbe impersonnel. C'est raté pour vous. Mais cette dictée relève aussi d'autres données très importantes.
Les
filles
avec moi,
plus performantes que les garçons, voilà. Et la très grande inégalité sociale de niveau aussi. Les élèves d'école les plus favorisés font 15,5 erreurs contre près de 22 dans les établissements d'enfants les moins aisés.
Allez, merci beaucoup, Louise. Vous l'avez faite, vous, la dictée ou pas?
Non.
Bon, on va la faire ensemble après Europe Midi.
On regardera ça.
On donnera le résultat demain. Merci beaucoup, Louise Salé. Nouvelle journée de grève à la SNCF. L'objectif pour les salariés mobilisés, c'est de faire pression sur la direction pour obtenir des hausses de salaire alors que les négociations salariales dans l'entreprise débutent aujourd'hui. Il y a moins d'un train sur trois sur l'axe TGV Paris-Lyon. Le trafic des TER et des intercités dans certaines régions est également perturbé. La Coupe du monde de football au Qatar, Europe 1, radio officielle du Mondial. Les deux derniers qualifiés pour les quarts de finale sont le Portugal et le Maroc. On en a beaucoup parlé du Maroc dès ce matin dans la matinale de Dimitri Pavlenko. Il n'y a plus de match avant vendredi. La France joue samedi soir, bien sûr, contre les Anglais. Et il y aura un duel à scruter lors de cette rencontre. Le gardien des Bleus, Hugo Lloris, bien sûr, jouera contre son coéquipier en club à Tottenham, l'attaquant star Harry Kane. Alors, quel effet cela peut produire pour les deux joueurs? Écoutez la réponse de l'internationale française et consultante d'Europe 1, Wendy Renard.
Je pense que ça peut surtout déstabiliser Harry Kane. si jamais il y a des face-à-face ou même dans des situations tout simplement de frappe, parce que ben, le gardien le connaît très bien. Lui aussi, c'est vrai qu'il connaît très bien Hugo, mais dans ces situations-là, avec la pression du défenseur qui peut revenir sur l'attaquant, ben, je dirais l'avantage est au gardien.
C'est un match dans le match, de toute façon.
Après, il y aura d'autres, hein, des matchs dans le match, mais il n'y aura pas qu'à Riken à surveiller, il y a d'autres joueurs aussi à côté. Donc, il va peut-être jouer avec intelligence en se faisant oublier et en faisant jouer encore plus les autres et jouer à bon escient pour sa sélection.
Voilà, l'analyse de Wendy Renard est tous les jours dans Europe Midi. Il est midi 17, La Bourse avec vous, Didier Hameau. Bonjour Didier.
Bonjour Romain.
De boursier.com. Quelle est la tendance à Paris ?
Quatrième séance de baisse, ça baisse un petit peu encore. Le CAC 40 perd 0,5%, 6 655 points. Une phase de consolidation, comme on dit en bourse, qui se prolonge donc après un rebond de 20% en l'espace de deux mois. La baisse se confirme aussi du côté du pétrole. C'est sans doute pas la plus mauvaise nouvelle, avec un baril qui tombe au plus bas de l'année, 78 $ le baril de Brent. Le marché redoute toujours une récession mondiale et donc moins de demande de pétrole. Du coup, les valeurs pétrolières reculent nettement. Valourec, moins 2,5%, CGG, moins 3%, Total, moins 1,7%. Ailleurs, la bourse de Francfort cède aussi 0,5%, ça baisse un petit peu partout. Bruxelles, moins 0,8%, Madrid, moins 0,4% et le CAC 40 en baisse de 0,5%, 6 655 points.
Merci beaucoup Didier, à demain. Le temps avec vous Anissa Haddadi, avec encore un peu plus de gris aujourd'hui.
Oui, ces derniers jours, on avait une France coupée en deux, c'est vrai, avec du gris sur la moitié nord et du grand soleil sur la moitié sud. Cet après-midi, ça va commencer à se couvrir sur le quart sud-ouest, avec même des brouillards qui restent tenaces sur les plaines du sud-ouest. C'est très agréable sur les Alpes, sur le quart sud-est, l'arrière-pays provençal, le pourtour méditerranéen et la Corse. La journée est belle, avec le Mistral qui se lève et qui souffle à 70 km/h dans la vallée du Rhône. Côté température, alors ce matin, il faisait froid, on avait beaucoup de gelée. Ça va d'ailleurs s'accentuer dans les prochains jours. Cet après-midi, nous n'avons que 1 degré à Saint-Étienne, 2 à Épinal et Auxerre, 6 degrés à Paris et La Rochelle, 8 à Aurillac, 10 degrés à Nîmes, 13 à Marseille, 15 à Nice et 18 pour Ajaccio.
Merci beaucoup Anissa, il est midi 18. Restez bien avec nous sur Europe 1 dans un instant. La consommation d'électricité en France, les pics de consommation. À nouveau demain, probablement un pic un peu plus important lundi. On est dans un instant avec Christian Sempère, spécialiste des questions d'énergie. On est avec vous bien sûr au 3921, vous appelez. Et puis on sera avec Dominique Enract qui représente les boulangers, boulangerie, pâtisserie. Pourquoi ? Et bien parce que les boulangers ont besoin d'électricité pour faire tourner les fours. Les situations sont parfois catastrophiques à cause de la hausse du prix de l'électricité. A tout de suite.